Spotkania europejskie.
Rozumiem tu Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromi tis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir et bienvenue au Carrefour de l'Europe. Bienvenue à Londres où nous avons posé nos micros. Dans 4 jours, très exactement le jeudi 7 mai, les Britanniques vont élire leurs représentants à la Chambre des communes. Et rarement, élection aura été aussi indécise et décisive quant à l'avenir du Royaume-Uni. D'abord parce que les conservateurs et les travaillistes sont au coude à coude et on ne sait pas qui de David Cameron ou de Ed Miliband sera le prochain Premier ministre. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'aucun des deux grands partis traditionnels, les conservateurs et les travaillistes, n'auront la majorité absolue. Alors, avec qui donc gouvernera le premier ministre? Avec les libéraux-démocrates de Nick Lang, voire avec les europhobes du UKIP, si David Cameron est reconduit par les électeurs, ou avec le soutien des indépendantistes écossais, si Ed Miliband est appelé à former le gouvernement? Ces mêmes écossais du SNP, le Scottish National Party, qui il y a quelques mois ont failli arracher l'indépendance de l'Écosse au Royaume-Uni. Et quid de l'avenir de la Grande-Bretagne et l'Europe, alors que David Cameron, s'il est élu, s'est engagé à organiser un référendum sur l'appartenance ou non du Royaume-Uni à l'Union Européenne. Au cours de cette campagne que les observateurs ont qualifiée de terne, on a parlé économie, croissance, austérité, chômage, emploi, salaire, avenir du service national de santé, voire coût exorbitant des études universitaires, mais très peu de l'éclatement possible du Royaume-Uni et encore moins de la place de la Grande-Bretagne en Europe. Deux questions qui s'imposeront pourtant dès le matin du 8 mai aux citoyens britanniques. Carrefour de l'Europe à Londres, je vous présente nos invités qui ont bien voulu nous rejoindre à l'Institut français. Denis McShane, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement de Tony Blair. Vous êtes l'un des rares, si ce n'est le seul homme politique britannique europhile.
Tout à fait. Mais j'aime bien l'Europe, tâche parfois un peu difficile à convaincre mes co-citoyennes.
Alors vous venez en tout cas de publier un ouvrage, Brexit, How Britain Will Leave Europe. Alors Brexit, c'est la contraction entre Britain et Exit, hein, c'est ça. Et How Britain Will Leave Europe, vous m'arrêtez si je traduis mal, comment la Grande-Bretagne va quitter l'Europe. Vous en êtes sûr?
Je crois que s'il y a un référendum, il y a tous les risques. Comme a dit François Mitterrand, le problème avec les référendums, c'est que les électeurs ne répondent jamais à la question posée. Donc, fais gaffe, fais très très gaffe. Et après le Brexit, peut-être si Marine Le Pen aura un peu de pouvoir, le Frexit, que la France
bon, excite. On va y revenir, on a le temps, on a une heure pour parler de ça. Quentin Peel, bonjour. Vous êtes associé à Chatham House. Et Chatham House, c'est le grand centre de réflexion britannique, qu'on dit think tank.
Oui, c'est le think tank pour toutes les affaires internationales.
Charles Brown, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur du Center for European Reforms. Alors, on associe forcément en Grande-Bretagne l'Europe aux réformes.
Oui, nous sommes là pour promettre les réformes pour que l'Union européenne marche mieux qu'il marche aujourd'hui.
Et puis, Eric Albert, bonjour Eric, vous êtes le correspondant du quotidien Le Monde et vous êtes l'auteur d'un petit livre absolument délicieux qui s'appelle Les Anglais dans le doute, qui vient d'être publié aux ateliers Henri Dougier. Quentin Peel, si on regarde la situation de la Grande-Bretagne en Europe, elle est plutôt enviable avec une croissance de plus de 2% et un chômage d'environ 5%. Ces élections auraient dû être une partie de plaisir pour David Cameron, d'autant plus que son principal concurrent, Ed Miliband, faisait plutôt pâle figure, et ce n'est pas le cas, puisque les conservateurs et les travaillistes sont donnés quasiment égalité, avec plus ou moins 34% des intentions de vote chacun. Qu'est-ce qui s'est passé pour que, finalement, cette élection ne soit pas une partie de plaisir pour David Cameron?
C'est très curieux, mais en fait, je crois que c'est une question de... Nous avons une croissance sans bonheur. C'est une croissance pas pour la majorité, qui existe surtout en Londres et le sud-est et pas pour tout le pays. Et aussi que Cameron, a très mal lutté pendant ces élections. Et tandis que Miliband, on n'avait pas beaucoup d'espoir pour Miliband, mais il a bien lutté et il est beaucoup mieux qu'on le croyait.
Eric Albert, Ed Miliband, c'est la révélation de cette campagne. On le disait un peu terne, incapable de prendre l'initiative de son parti. D'ailleurs, il avait dû éliminer son frère, c'était je crois il y a 4-5 ans. Enfin bref, c'était un peu le bad boy.
En même temps, c'est une erreur tactique des conservateurs qui ont
systématiquement fait de Anne Miliband quelqu'un de ridicule, d'idiot, de franchement pas à la hauteur. Et quand finalement les Britanniques l'ont vu pendant cette campagne, ils se sont aperçus qu'en fait il n'était pas complètement idiot et complètement absurde. Et donc les espoirs étaient tellement bas que c'était pas très compliqué de les dépasser. C'est ce qui s'est passé. Inversement, David Cameron a plutôt déçu, effectivement.
Alors, dans cette campagne, on a parlé très peu d'Europe. On a parlé, évidemment, salaire, on a parlé croissance. Croissance très inégalitaire, vous disiez, Quentin Peel. Il y a Londres et le reste de l'Angleterre, Charles Grant.
Oui, mais le problème pour Ed Miliband, c'est même qu'il a été plus efficace qu'on le croyait. Son problème, à mon avis, c'est qu'il est contre le business. Il est contre les hommes d'affaires, les femmes d'affaires. Il ne comprend pas que la richesse vient des entreprises. Et ça, c'est le meilleur argument des conservateurs, c'est que Ed Miliband, c'est contre le business. En plus, il a très peu de charisme, même s'il a été moins mauvaise qu'on l'attendait. Ça, c'est son problème, la manque de charisme.
Alors, David Bachchan, il est mauvais ou il n'est pas si mauvais que ça, Ed Miliband? Vous qui êtes peut-être toujours d'ailleurs un membre du Parti travailliste et qui avait été ministre de Tony Blair. Tony Blair, on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas aimer le monde des affaires.
Non, Ed Miliband non plus. C'est l'associé de Gordon Brown qui est le ministre des Finances ici et en Europe le plus pro-business qu'on a jamais vu. Bon, on parle un peu à gauche, mais on agit avec Gordon Brown beaucoup plus à droite. On a bloqué toute la législation sociale de l'Europe. Et Miliband était là comme son apprenti pendant 20 ans, ministre à la fin. Il n'a pas eu grand écho avec l'arrivée de David Cameron, mais il a pris trois décisions assez intéressantes. D'abord, 2011, il a aboli l'omerta ici sur la question de Rupert Murdoch. Monsieur Murdoch était intouchable sur Tony Blair, Gordon Brown.
Vous expliquez qui est Rupert Murdoch.
Rupert Murdoch, c'est le grand patron de la presse australo-américain-anglais qui contrôle une bonne partie de notre télévision et le Times, le plus grand journal, et le Sun, qui est le plus puissant tabloïd en Europe. Et monsieur Murdoch, très à droite, fanatiquement anti-européen, pro-George W. Bush, et on devait, franchement, être à genoux devant lui si vous étiez chef d'un parti. Et Miliband, il y a 3 ans, a dit non. Murdoch et son journaliste sont des criminels. Il faut vraiment l'exposer. L'empereur est nu. Omerta était enterré. Deuxièmement, Miliband a refusé d'accepter le va-t-en guerrisme, franchement, de François Hollande sur la question de bombardement de Syrie. Peut-être on avait ras-le-bol depuis l'Irak, de l'idée que lancer des missiles de croisière, style Tony Blair, ne servait à rien. Et je crois que le président Obama, secrètement, était très content qu'on n'a pas simplement lancé quelques petites bombettes sur la Syrie, comme M. Sarkozy et M. Cameron a fait sur la Libye, avec les résultats qu'on connaît maintenant, un désastre total. Troisièmement, il a dit, contre la volonté de pas mal de son parti, non à un plébiscite populiste pour sortir de l'Europe. Trois grandes décisions d'un vrai leader, décisions individuelles. Et donc, je pense que les gens ont beaucoup sous-estimé Ed Miliband. Il a eu 5 meilleures semaines de campagne, de 5 ans de leadership de son parti. Et je ne sais pas s'il va gagner, mais enfin, on a vu un peu le vrai Miliband.
Alors, Ed Miliband s'est révélé à ses concitoyens britanniques. Cette campagne, tout le monde l'a dit un peu terne. On a parlé de quoi?
Alors, en premier lieu, service national de santé. C'était la chose la plus importante.
Extrêmement important pour les Britanniques, le NHS.
36% disent que c'est la priorité, la première priorité. Je suis très content parce que je suis jumeau. Je suis né le jour que le service national de santé est lancé en Grande-Bretagne.
Juste un mot quand même pour nos auditeurs. La santé en Grande-Bretagne, elle est dominée et exclusivement dominée par le NHS, le Service National de Santé, et elle est gratuite.
Gratuite.
Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. D'ailleurs, Eric Albert, vous y consacrez un chapitre de votre livre, c'est extrêmement important pour les Britanniques.
Oui, et les conservateurs étaient contre au commencement. Maintenant, ils sont pour. Mais c'est un thème excellent pour le Parti travailliste. Tandis que l'économie, c'est pas aussi fort pour le Parti travailliste. Et ça, c'est la deuxième priorité pour les électeurs. Et des questions comme l'Europe, on ne s'intéresse pas.
On va évidemment y revenir, mais on n'a presque pas parlé de l'Europe. Hein.
Deux mots qui n'ont pas mentionné tout au long de cette campagne. Le premier, c'est capitalisme, et le deuxième, c'est socialisme. Donc, c'est une élection sans vision, sans orateur, sans philosophie. Nous serons le meilleur gérant de la boutique, le café de commerce, que vous, Monsieur Cameron. Donc, c'est pas très palpitant.
Sans idéologie, mais avec nationalisme, quand même, qui est important.
Alors, on va y revenir. Eric, vous dire...
Juste un mot, moi, ce qui me frappe dans cette campagne, c'est à quel point ni Miliband ni Cameron n'ont convaincu personne. Ils ont peut-être 33% des voix, c'est un minimum. Miliband fait un tout petit peu mieux que prévu, Cameron un petit peu moins bien que prévu, mais l'un dans l'autre, c'est un rejet complet, généralisé des grands partis, travaillistes, conservateurs, qui vont faire au mieux 2/3 des voix à eux deux. Il y a 50 ans, ils faisaient 99% des voix à eux deux. C'est une implosion de la politique britannique.
Et c'est pas un rejet complet, 33%. 33% pour Monsieur Hollande en France serait une grande victoire.
Et même on parle de systèmes qui sont pas les mêmes. Il faisait ici 40% il y a 10 ans.
C'est évidemment une donnée importante de ces élections, car quel que soit le vainqueur, il n'aura pas de majorité absolue, car le bipartisme n'est plus la règle ici en Grande-Bretagne. Le multipartisme s'est imposé avec, bien sûr, le UKIP, les indépendantistes populistes qui veulent se retirer à tout prix de l'Union européenne, avec les Verts qui ont fait une percée, et c'est une petite nouveauté, et surtout avec les partis régionaux, nationaux, en Irlande du Nord, au Pays de Galles et surtout en Écosse. Alors on va faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Jerry Philly, bonjour. On a tous en mémoire le succès relatif des indépendantistes écossais du SNP, Scottish National Party, qui il y a quelques mois n'ont pas réussi à obtenir l'indépendance. On aurait pu les croire affaiblis, ce n'est pas du tout le cas. Au cours de cette campagne, ils se sont renforcés au point d'être déjà les grands vainqueurs de cette élection.
Absolument, Daniel. En fait, loin d'être fatal pour les nationalistes écossais, la campagne du référendum en 2014 les a laissés plus forts que jamais. Rappelons que 55% des Écossais ont voté contre l'indépendance, mais quand même un grand nombre de personnes, 45, ont voté pour. Donc, avant les élections de 7 mai, selon les enquêtes, les nationalistes vont remporter une énorme victoire dans le prochain Parlement de Londres. Rappelons qu'en ce moment, il y a actuellement 6 députés écossais aux chambres de communes à Londres. Là, après le 7 mai, on prévoit 55 nationalistes sur les 59 sièges alloués aux Écossais au Parlement, ce qui est énorme. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire, en fait, pour le Parti travailliste, qui a longtemps dominé en Écosse, le Parti travailliste est absolument anéanti en Écosse, et bien sûr, le travailliste ne va pas pouvoir gagner une majorité dans le prochain Parlement. Donc, ils vont être obligés de chercher un soutien. Alors, Nicola Sturgeon, c'est la première ministre écossaise. Elle a offert un deal, une coalition avec Ed Miliband, le chef des travaillistes. Or, Ed Miliband exclut toute proposition pour l'instant. Mais ce qui est absolument clair, c'est que le Parti travailliste ne va pas pouvoir former un gouvernement sans le soutien des nationalistes. Alors, dans ce cas-là, les Écossais peuvent demander de plus en plus d'autonomie pour aller vers un Royaume-Uni de plus en plus fédéral, ce qui est bien sûr une catastrophe, c'est un séisme politique pour les nationalistes. De l'autre côté, si par hasard David Cameron, le Premier ministre, gagne et alors un deuxième mandat, eh bien, il va tenir un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne. Les Anglais sont plus favorables que les Écossais en sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, parce que, à savoir que les Écossais sont plutôt pro-européennes, mais selon les derniers sondages, les Anglais, c'est un peu 50-50, c'est un peu 39% favorables pour quitter l'Union contre 40%. Donc, c'est extrêmement coude à coude. Alors, si les Anglais votaient pour sortir de l'Europe, et les Écossais pour y rester, la soif d'indépendance écossaise pourrait s'avérer insatiable.
C'est évidemment un article à lire dans le dernier numéro de Courrier International qui consacre tout son numéro à ces élections britanniques avec un titre « Faut-il sauver les Anglais ?» C'est une bonne question. On va faire un peu de pédagogie, Eric Albert. C'est vrai que nous, de l'autre côté de la Manche, du côté du continent, il y a l'Angleterre, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni. Et on a l'habitude d'employer indifféremment anglais ou britannique pour parler des habitants du Royaume-Uni, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Hein. Une petite précision pédagogique.
Donc, le pays s'appelle le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Il est donc composé de 4 nations et c'est essentiel de comprendre que ce sont des nations et pas juste des régions. L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande du Nord.
Et alors évidemment, si l'Écosse demande l'indépendance et l'obtient, ça change tout. Et si, Charles Grant, les Écossais indépendantistes sont les arbitres du prochain gouvernement britannique, c'est un séisme.
Ce que je trouve très intéressant dans cette campagne électorale, c'est la montée du nationalisme anglais. Et on voit des attaques très sévères des conservateurs contre les nationalistes écossais et contre les travaillistes, en disant si vous avez un gouvernement travailliste, Miliband va être dans la poche des écossais nationalistes et les pauvres anglais vont être discriminés, vont souffrir. Et les conservateurs disent qu'il y a beaucoup plus d'argent et de pouvoir transféré aux écossais. Alors, il y a une montée de nationalisme anglais qu'on voit au sein du parti conservateur et aussi avec UKIP. Et si le résultat de ces élections, c'est un gouvernement Miliband soutenu par les Écossais, on va voir même plus d'angoisse anglais et hostilité entre les Anglais et les Écossais, et l'Union, le Royaume-Uni est vraiment en danger à mon avis.
Dennis McShane.
Simplement qu'Eric Albert a présenté les 4 nations, l'Angleterre, Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, mais il y a un 5e qui s'appelle Londres, qui est un mégalopolis international globaliste qui n'a rien à voir avec le reste d'Angleterre. Et le nord d'Angleterre a beaucoup plus en commun avec le Pays de Galles, l'Écosse que Londres, qui est vraiment presque... Il y avait déjà un projet de le faire, d'indépendantisme pour Londres. C'est assez riche, je vous assure. Donc, mais je crois que Charles Grant a parfaitement raison, on passe vers le royaume désuni. Et on aura une crise généralisée de la constitution, l'avenir de l'Irlande, les îles britanniques, sur tous les aspects, soit la montée de le Québec, parce que l'Écosse est notre Québec maintenant, soyons clairs. Et aussi en Irlande, on est terrifiés de l'idée de la sortie d'Angleterre de l'Union européenne. Donc on va passer, je crois, de la chose la plus difficile pour les Anglais, c'est discuter les idées politiques. Discuter l'idée de réforme constitutionnelle. Non, on n'aime pas ça, mais on marche inéluctablement, à mon avis, à cette grande crise constitutionnelle pour la future de l'île britannique, les 4 nations plus Londres, etc.
Quentin Peele, il va falloir beaucoup de flingue pour les Anglais dans les semaines, les mois et les années à venir pour gérer cette situation, un risque d'éclatement du Royaume-Uni, chose qu'on imaginait guère il y a encore quelques années.
Oui, je crois. Bien, je ne suis pas tout à fait d'accord que c'est une angoisse fondamentale pour les Anglais. Les Anglais ne se sont pas rendus compte jusqu'ici que vraiment le Royaume-Uni est en danger. Mais aussi, le nationalisme anglais s'est divisé entre les conservateurs et UKIP, qui essaie d'être le parti de nationalisme anglais, alors les europhobes, comme vous avez dit, et les conservateurs. Alors, c'est pas clair, ni l'un ni l'autre, la réponse pour les Écossais. Les Écossais sont effectivement réunis. Et on regarde l'Irlande, très important, l'Irlande du Nord, mais ça c'est divisé entre Sinn Féin et les unionistes, et c'est très difficile. Mais la réponse logique, c'est un fédéralisme. Mais ça, c'est pas la réponse que les Britanniques cherchent.
Fédéraliste, fédéraliste, c'est très, très difficile à prononcer ici.
Et en tout cas, c'est un sujet qui n'a pas été du tout abordé dans cette campagne.
Non, c'est vrai. Ce sont les élections probablement les plus importantes de ma vie pour la question du Royaume-Uni et la question de l'Europe. Et ni l'un ni l'autre est discuté pendant les élections et la réponse est tout à fait pas claire.
On va faire une petite pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Et on va se retrouver dans 3 minutes très exactement, le temps après les infos. Ici à l'Institut français de Londres, avec nos invités, on va parler du rapport étrange que les Britanniques entretiennent avec l'Europe. À tout de suite.
Europejskie.
Cruzamento da Europa.
Rozkrucia Europy.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, rebonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Nous sommes toujours à Londres, à l'Institut français. Jeudi, les Britanniques vont élire leurs députés de la Chambre des communes. Élection très indécise. Les conservateurs et les travaillistes sont au coude à coude. Et les bookmakers s'en donnent à cœur joie pour savoir qui de David Cameron ou de Ed Miliband sera le prochain Premier ministre. Élection décisive aussi quant au rapport qu'entretient la Grande-Bretagne avec l'Europe. Car si David Cameron est confirmé au 10 Downing Street, il s'est engagé à organiser un référendum sur l'appartenance ou non du Royaume-Uni à l'Europe. Et dans un pays aussi eurosceptique que la Grande-Bretagne, le pari est osé pour ne pas dire risqué. Je vous représente rapidement nos invités. Denis McShane, ancien ministre des Affaires européennes du gouvernement Tony Blair. Quentin Peel, associé au think tank de Chatham House. Charles Grant, directeur du Centre for European Reform. Et Eric Albert, correspondant du quotidien Le Monde et qui vient de publier Les Anglais dans le doute aux ateliers Henri Dougier. Alors, l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne est en filigrane, voire au cœur de cette élection. Mais paradoxe tout britannique, on a peu parlé de l'Europe dans cette campagne. On l'a déjà évoqué au cours de cette première partie. Denis McShane, Europe, c'est un mot tabou en Angleterre.
Presse parlait positivement en faveur de l'Europe. C'est assez difficile, pas très populaire. Je crois que les conservateurs ne veulent pas trop insister sur l'Europe parce qu'ils savent que le monde d'affaires, leurs supporters, sont très nerveux de l'idée de Brexit, le retrait d'Angleterre totalement de l'Union européenne. Pour le Labour, il sait que les Anglais sont largement anti-européens. Le UKIP a été tête de voix dans les élections européennes et municipales l'année passée, un peu comme Marine Le Pen en France. Donc, il va pas offrir un profil pro-européen. Et en plus, M. Cameron offre un plébiscite, une votation, un référendum. Et par contre, M. Miliband dit non. On veut pas ce référendum, donc c'est peu risqué à dire aux voteurs, on va vous priver de votre droit à votre petit plébiscite sur l'Europe. Donc, pour les deux parties, un intérêt commun de ne pas trop insister.
Profil bas. Charles Grant, on va pas refaire toute l'histoire de la Grande-Bretagne et de l'Union européenne. Enfin, on peut dire que le Royaume-Uni a rejoint l'Union européenne à reculons. C'était en 1975. Là, il y a eu un référendum. 73. Et il y a eu un référendum en 75, pour confirmer cette décision avec un succès déjà à l'époque mitigé, plus ou moins 64% d'adhésion à l'Union européenne. C'était pas l'enthousiasme, même au tout début.
Oui. Le problème, c'est que nous croyons en Angleterre que l'Europe, c'est géré par les Français et les Allemands et les bureaucrates de Bruxelles pour mettre leurs intérêts contre les intérêts des Britanniques. Et on croit que nous avons très peu d'influence dans l'Union européenne. Enfin, ces idées ne sont pas, ils sont largement fausses, mais grâce aux médias britanniques qui prônent ces idées fausses, le peuple britannique croit que nous avons très peu d'influence, alors ils sont plutôt hostiles. Et puis, ces dernières quelques années, le problème s'est empiré à cause de la crise de l'euro, parce qu'on voit avec la crise de l'euro que la zone euro est mal gérée par des leaders incompétents, et les leaders du eurozone sont les mêmes leaders de l'UE. Alors, tous les problèmes de l'euro ont même augmenté cette mauvaise réputation pour l'Union européenne.
Alors, j'ai presque envie de vous allonger tous les quatre sur un divan, de faire un peu d'introspection, et je veux dire, mais qu'est-ce que vous avez envie de vous dire, alors, Quentin Peel, de ces rapports profonds qu'ont les Britanniques avec l'Europe, de cette schizophrénie?
C'est la mentalité de l'île, c'est la mentalité de la Manche. Il y a la mer entre nous deux. Et nous parlons en Angleterre de la Grande-Bretagne et l'Europe là-bas. Alors, c'est pas nous les Européens. Alors, ça c'est une affaire toujours très difficile. Deuxièmement, on regarde l'Europe toujours comme une bataille. Pour et contre. C'est ou bien une victoire pour nous, ou bien une défaite. Il n'y a pas de compromis possible. Et ça, c'est aussi une difficulté, parce que c'est comme travaille notre Parlement jusqu'ici, avec les deux grands partis. C'est ou bien noir, ou bien blanc. Et on ne voit pas de différence.
Denis McShane, vous qui êtes maintenant allongé sur ce divan.
Sur le divan, je disais simplement, nous n'étions jamais envahis, occupés depuis Guillaume le Conquérant.
C'est donc, 1066,
On n'a pas
envahi depuis, mais pas conquis.
On n'a pas besoin de le grand premièrement, réconciliation allemand-français, etc., etc. Deuxièmement, on aimait l'Europe quand l'Europe était économiquement beaucoup plus performante que nous. Maintenant, c'est un peu l'inverse. Troisièmement, on a fusionné la question de immigration, immigrants, avec adhérence de l'Union européenne. Nous voulons regagner contrôle de nos frontières, cette blabla. Là, mais c'est puissant, c'est puissant. Quatrièmement, à chaque moment de notre épopée européenne, on avait un grand parti farouchement eurosceptique, sinon euro-hostile, et une grande partie de la presse. Imaginez-vous en France, si ces derniers 50 ans, soit le RPR ou MP maintenant, étaient pendant 20 ans anti-européens, Le Figaro, Le Monde, Express, Le Point, étaient anti-européens, faisaient le propagande jour et nuit, et l'inverse, pendant 20 ans, le PS, les socialistes, les libés, Le Monde étaient anti-européens. Est-ce que vous croyez que la France est aussi pro-européenne qu'elle est aujourd'hui? Est-ce que la France est vraiment pro-européenne?
La France aussi change, évidemment, puisque on sait bien en France que lorsqu'on pose une question sur l'Europe, quelle que soit la question, la réponse est plutôt non. On en a eu la triste expérience en 2005. Illustration de ce rapport ambigu à l'Europe avec David Cameron, propos recueillis au cours de la campagne électorale par notre correspondante Muriel Delroy.
C'est un exemple typique de nos différences. Tony Blair ne fait pas confiance aux Britanniques, et je pense que lui et Ed Miliband ont tort. Je crois qu'il est temps que les gens aient leur mot à dire lors d'un référendum pour la sortie ou non de l'Union européenne, organisé fin 2017. À l'inverse de Tony Blair, qui a donné plus d'argent à l'Europe, j'ai, moi, protégé notre rabais, et j'ai diminué le budget européen. Et maintenant, je vais aller là-bas et réformer nos liens avec l'Union européenne, rapatrier nos pouvoirs, m'assurer que nous contrôlons mieux l'immigration notamment. Et ensuite, ce sont les Britanniques qui décideront s'ils veulent rester ou partir.
Alors, c'est vrai que c'est relativement curieux d'associer le thème de l'immigration, qui est évidemment très importante ici au Royaume-Uni, et celui de l'Europe, car évidemment, il y a une immigration des Polonais, une forte communauté polonaise ici au Royaume-Uni, notamment à Londres, mais les principaux immigrés, ils viennent d'Asie, du Sud-Est et d'Afrique. Qui veut rebondir, Eric Albert?
L'immigration des pays d'Europe de l'Est depuis 2004 est réelle. Il y a eu un vrai afflux qui n'était pas du tout prévu par le gouvernement de Tony Blair. Il prévoyait, je crois, 50 000 personnes. Il y en a eu plutôt 10 fois plus qui sont arrivées. Et donc, dans certaines villes, il y a effectivement une vraie pression démographique réelle qui est arrivée. On trouve plus de logements, les écoles sont pleines. Et puis, il y a une concurrence sur les bas salaires. Et là, grande trouvaille de Farage, donc le leader du UKIP, du parti anti-européen, a été de lier immigration avec Europe. Si on sort de l'Europe, on contrôlera nos frontières. Et ce message, il l'a rabattu et rabâché, et ça a très bien marché. C'est maintenant un message qu'on entend partout, dans toute l'Angleterre particulièrement, et un petit peu au Pays de Galles aussi.
J'ai entendu tous les Britanniques sont persuadés que si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne, le problème de l'immigration sera miraculeusement résolu du jour au lendemain. C'est un petit peu ce que pensent les Britanniques.
Well, le génie de Nigel Farage, le leader du UKIP, c'est qu'il a expliqué aux Britanniques, et c'est vrai, que si vous voulez avoir le contrôle absolu sur vos frontières, vous devez quitter l'UE. Et Farage a raison à dire ça, et c'est pour cette raison, à mon avis, que Farage a fait très bien ces dernières années, parce que les Britanniques, même s'ils sont assez sceptiques, ils ne s'intéressent pas beaucoup à l'Europe, mais ils s'intéressent beaucoup au problème de l'immigration, et Farage a mélangé ces deux problèmes.
C'est une petite nationaliste populiste, c'est Marine Le Pen aujourd'hui, c'est UKIP chez nous, mais attention, tout ce qui dit M. Farage a été dit par un conservateur, parfois de très haut rang. Donc, Farage dit en haut ce que les conservateurs pensent en bas. Et on n'arrive pas à faire campagne, surtout avec une presse. Tous les grands propriétaires n'habitent pas l'Angleterre, ne payent pas des impôts en anglais. Il y a un ou deux qui sont anglais, et M. Murdoch, c'est un citoyen américain. Et là, vraiment, je n'aime pas blâmer la presse, ça c'est une erreur, mais quand même, si vous lisez jour et nuit la propagande anti-européen ces derniers 25 ans, c'est un miracle qu'on est toujours dedans.
C'est important de comprendre que la montée du UKIP, parti anti-européen, n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. Les gens votent UKIP, pas parce qu'ils veulent sortir de l'Europe, mais parce qu'ils veulent contrôler l'immigration. Et puis, plus généralement, il y a une espèce de malaise économique. Ce sont des petites gens souvent qui ont du mal à boucler les fins de mois et qui râlent. C'est du poujadisme. Ça n'a pas grand-chose à voir avec l'Europe. Et quand on demande aux Britanniques quelles sont vos priorités, c'est en un, l'économie, l'immigration. L'Europe arrive très bas dans les intérêts. Les Britanniques ne sont pas fascinés par l'Europe. Les élites politiques britanniques, par contre, le sont, et particulièrement les conservateurs en ce moment.
Un fait qui est intéressant, dans les années 80, les sondages, tous confondus, montrent deux tiers des Anglais plutôt favorables à la sortie. Et Madame Thatcher leur a donné un bras d'honneur en disant « Non, je vous offre du leadership ». Et je vais impliquer l'Angleterre plus profondément dans l'Europe avec l'acte unique. Maintenant, 20 ans plus tard, les sondages sont plutôt 40% prêts à partir. Donc, paradoxalement, on a plus de profils anti-européens chez les politiciens parce qu'on a les petits politiciens, pas un grand comme Madame Thatcher. Moi, je dis, on veut un grand comme Madame Thatcher. Oh, je me sens très, très malade.
En 80, c'était le contraire. C'était les travaillistes qui voulaient sortir. Tony Blair faisait campagne en 83
sur le principe de
il faut sortir de la CEE à l'époque. Aujourd'hui, ça s'est entièrement inversé. Et donc, le message arrive effectivement des politiciens des deux bords à 20 ans d'écart.
On comprend que les Britanniques soient perturbés. Quentin Peel.
Et les deux grands partis, ça, c'est le problème avec l'immigration. Les deux grands partis ont énormément peur d'en parler. Alors, même le Parti travailliste dit alors nous allons contrôler l'immigration, même que les conservateurs. Ça, c'est, je trouve, très dangereux, en fait, parce que l'immigration est, au fond, une chose très importante pour le pays, et il faut alors le gérer, mais pas le contrôler.
Les hommes politiques n'ont pas le courage à expliquer comment l'économie britannique profite de l'immigration. Quelques hommes et femmes d'affaires font ça, mais les hommes politiques, comme Quentin dit, ils ont très peur d'en parler.
Carrefour de l'Europe sur RFI.
Carrefour de l'Europe à Londres à l'occasion des élections britanniques, des élections importantes, décisives et tout à fait incertaines. Nous sommes avec Denis McShane, avec Quentin Peel, avec Charles Grant et avec Eric Albert. Alors du côté d'Ed Miliband, c'est-à-dire les travaillistes, on refuse l'idée du référendum qu'a promis David Cameron, mais de là à être un euro-enthousiasme, il y a tout de même une marge. Ed Miliband.
Il est extrêmement important pour l'avenir de notre pays que nous restions dans l'Union européenne et que nous la réformions, et c'est une question fondamentale pour l'économie de notre pays. Beaucoup de chefs d'entreprise me disent qu'il est essentiel que nous restions dans l'Union européenne, et beaucoup de pays doivent actuellement se demander pourquoi nous voudrions partir quand tant de nos emplois, commerce et modes de vie dépendent de notre avenir dans l'Union européenne. Il faut que ce soit une Europe réformée pour qu'elle marche mieux pour nos entreprises, et nous réformerons aussi l'aspect immigration. Mais je pense que notre avenir est à l'intérieur de l'Union et pas à l'extérieur.
Alors, Charles Grant, je m'adresse au directeur du Center for European Reform. Ed Miliband a parlé de réforme de l'Union européenne. D'ailleurs, tout comme David Cameron, qui dit à peu près la même chose hein, sur ce sujet. Dans l'esprit de David Cameron ou de Ed Miliband, réformer l'Union européenne, ça veut dire quoi?
Vous avez raison, les deux grands partis, les conservateurs et les travaillistes, ont des idées un peu pareilles sur la réforme. Une priorité pour les deux, c'est le marché unique et pour empêcher que la zone euro se rassemble pour imposer ses idées sur les 28. Il faut avoir des protections pour le marché unique contre ce problème potentiel de l'eurozone. Ça, c'est une idée. Deuxièmement, les parlements nationaux. Les conservateurs et les travaillistes croient qu'il faut impliquer plus les parlements nationaux au sein de l'UE pour protéger le principe de subsidiarité. Troisièmement, les deux parties sont d'accord pour limiter les bénéfices sociaux que les immigrés européens peuvent toucher quand ils arrivent en Angleterre.
Et ça, c'est évidemment une question centrale, car c'est la base même de la construction européenne, la répartition, l'égalité des droits et des devoirs au niveau de tous les Européens à l'intérieur de la zone européenne. Alors, Eric Albert, vous qui suivez pour Le Monde ce qui se passe du côté de la Cité, que disent les milieux d'affaires de cette querelle? Faut-il ou non rester dans l'Union européenne?
Alors, immense majorité, les milieux d'affaires veulent rester absolument dans l'Union européenne, particulièrement les grandes multinationales qui en profitent énormément, et elles font donc un petit peu campagne pour rester. Le problème, c'est qu'elles ont aussi horreur de Ed Miliband, qui lui ne veut pas effectivement faire de référendum, mais qui est plus interventionniste dans l'économie, veut taxer les plus riches. Et donc, elles sont écartelées, ces grandes entreprises, et la City est écartelée entre ces deux.
On retombe encore dans la schizophrénie, alors.
Ah, toujours, toujours. Mais c'est très anglais de jamais vraiment se définir, de jamais vraiment décider. Mais sur l'Europe, on devrait avoir, s'il y a un référendum, quelque chose similaire à ce qui s'est passé avec le référendum sur l'Écosse, c'est-à-dire les entreprises qui descendent en bloc le mois ou les deux mois avant le référendum, elles se réveilleront probablement à ce moment-là.
Quentin, vous vouliez réagir sur cette schizophrénie aussi des milieux d'affaires?
Le problème le plus grand pour les entreprises, c'est la question de l'Europe, le risque qu'on va sortir de l'Europe, mais toutes les autres choses sont contre le Parti travailliste. Alors vraiment, ils veulent les deux choses en même temps.
L'homme d'affaires peut-être le plus admiré chez nous, ça s'appelle Sir James Dyson. C'est l'inventeur de l'aspirateur et surtout pour sécher les mains. Ouais. Enfin, on peut sécher les mains sans trop attendre. Et qu'est-ce que dit Sir James Dyson? Moi, je vote pour sortir. Parce que l'Europe est dominée par les Allemands. Et quand vous avez un homme tant admiré que ça, oui, les grands multinationales américaines, le chef de Goldman Sachs dit « Oh, ça serait terrible si les Anglais quittent, ça va avoir des faits désastreux sur mon bonus. » Mais les petites et moyennes entreprises ont été éduquées par la presse que l'Europe est réglementation, l'Europe c'est la puissance des syndicats, l'Europe a zéro croissance. Donc faut très attention, on fait pas une comparaison avec l'Écosse. L'Écosse est un mariage de plus de 300 ans. Moi j'étais né en Écosse, famille en Écosse, mon fils est étudiant à l'Edinburgh. Et toute la presse était pro l'Union avec l'Europe. C'est un ménage à 28, on vit dans chambre à part, on pense qu'on donne trop d'argent aux Européens, et maintenant ils ont invité tous les parents pauvres de venir habiter chez nous. En Écosse, Londres a donné un énorme chèque aux Écossais pour leur persuader de voter pour l'Union et beaucoup plus de puissance. Monsieur Juncker arrive avec une bonne volonté pour garder l'Angleterre dans l'Union, mais pas d'argent et pas de pouvoir.
Ce sera plus difficile que l'Écosse, et effectivement, l'Écosse n'est passée qu'à 55-45%, c'était plus serré que prévu. Donc effectivement, je suis d'accord, un référendum sur l'Europe peut aller dans tous les sens.
David Cameron ou Ed Miliband, ils sont d'accord, ils veulent que l'Union Européenne se réforme. Mais l'Union Européenne, c'est 28 pays, et l'Union Européenne, c'est pas la Grande-Bretagne, c'est pas le Royaume-Uni en plus grand. Les Britanniques ont très peu d'alliés pour réformer. Absolument. C'est pas une priorité des Français, des Allemands, des Italiens, des Espagnols.
Le problème pour David Cameron, c'est qu'il faut avoir, il faut beaucoup d'alliés et d'amis pour réformer les institutions et les politiques de l'UE. Et la manière par laquelle il a géré son pays ces dernières années, il a perdu beaucoup d'amis. Récemment, par exemple, il a écrit un article dans le Sunday Times en attaquant les Français, en disant l'économie française c'est atroce et si vous votez Miliband, vous allez avoir une économie aussi mauvaise que l'économie française qui est très mal gérée. Alors, si vous écrivez des articles comme ça, vous n'aurez pas beaucoup d'alliés pour mener des réformes de l'UE. Ça, c'est le problème. C'est un homme politique, Cameron, qui en anglais dit transactional. Chaque problème, il fait un problème à problème. Il n'aime pas les relations. Il a fait très peu d'efforts à construire des relations à terme avec ses partenaires européens. Ça, c'est son problème.
C'est plus un tacticien qu'un stratège.
C'est exactement ce que j'allais dire. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ce qu'il a proposé sur l'Europe, ce référendum, il voulait pas le donner. Il y a 5 ans, 6 ans, il disait surtout, moi, l'Europe, je ne veux pas en parler, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Il l'a donné pour essayer de calmer son aile conservatrice avec une vision à 6 mois. Ça a fait le contraire, évidemment. L'aile conservatrice s'est encore plus réveillée, le UKIP s'est encore plus réveillé. Il a donné donc chaque fois un petit peu plus et à chaque fois, pour gagner les 6 prochains mois, pour gagner l'élection d'après, il donne n'importe quoi, quitte à se retrouver face à un référendum très compliqué, des négociations impossibles à gagner, et effectivement, il s'est retrouvé tout seul dans un coin.
Le calendrier est difficile. Un problème, c'est qu'il y a un membre, il n'y a pas un membre du Conseil des ministres britanniques qui sait parler une langue étrangère, lit un journal. Je demande pas à chaque ministre d'être multilingue, c'est absurde, mais au moins en France, on a pas mal de ministres en Allemagne qui arrivent à lire et parler.
Ici,
et ici, on est totalement monolingue, que tout le monde doit parler l'anglais. Ici, on ne comprend pas, il faut crier plus haut. Mais aussi, le calendrier est très difficile. Parce que Madame Merkel et Monsieur Hollande avancent avec leurs élections. 2017, la même année que M. Cameron propose un plébiscite. Donc l'idée que M. Hollande et M. Madame Merkel, avec la meilleure volonté du monde, peuvent donner des énormes cadeaux à un conservateur qui le traite avec mépris, simplement pour garder l'Angleterre dedans, me semble, ancien politicien pratiquant, peu difficile à envisager. Donc, si on arrive à cette plébiscite, fait très, très gaffe. Ça va être très, très difficile.
Quentin Beale, qui aurait le plus à perdre d'une sortie de l'Union européenne? La Grande-Bretagne ou l'Union européenne, selon vous?
La Grande-Bretagne, sans doute pour moi. Ouais. Mais quand même, ça serait un danger pour l'Union européenne. On allait perdre une certaine ouverture vers le monde, libéralisme et tout ça. Mais quand même, pour la Grande-Bretagne, ça serait horrible. Et je crois, à la fin, que ce que les Britanniques votent cette fois, ils votent pour une coalition. Ils ne veulent pas voter pour les conservateurs et pour la sortie de l'Europe. Ils ne veulent non plus voter tout à fait pour le Parti travailliste. Ils votent peut-être pour une grande coalition entre les deux, ce qui est impensable pour les Britanniques.
Charles Wendt, Laurent Fabius a dit il y a quelques jours, si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne, ce serait dommage pour l'Union européenne, mais ce serait pire pour la Grande-Bretagne. Vous êtes plutôt d'accord avec cette idée?
Non, je ne suis pas d'accord avec ni Laurent Fabius ni Quentin. Je pense que c'est très mauvais pour l'Angleterre si on quitte. L'économie britannique va être un peu plus faible, mais nous avons quand même une économie très forte avec beaucoup de liens avec d'autres continents, d'autres marchés mondiaux. On peut survivre hors de l'Europe, mais ça va être un problème. Tandis que pour l'Europe lui-même, pour l'UE, à mon avis, les problèmes sont plus grands qu'on a compris si on quitte l'UE. Par exemple, le problème Allemagne va retourner énormément. Déjà, l'Allemagne dirige l'Europe. Déjà, c'est leur hégémon en Europe. Et pour les Italiens et les Français, c'est très problématique si les Britanniques quittent, parce que l'Allemagne va être même plus surpuissante. Pour les relations transatlantiques, les Américains ne vont pas prendre l'UE comme sérieux sans les Britanniques, parce que c'est les Britanniques qui sont sérieux sur la question de défense et sur la politique étrangère. Et tandis que l'économie européenne sont la philosophie libre-échangiste britannique, vous allez voir plus de protection, moins d'accords commerciaux, moins de marché unique. À mon avis, c'est très mauvais pour l'Europe si les Britanniques quittent, à mon avis.
Eric Albert, d'un mot, est-ce que vous croyez que les Britanniques peuvent s'appuyer sur le Commonwealth et sur les pays émergents, l'Inde qui fait partie du Commonwealth, bien sûr, mais la Chine ou le Brésil, ou c'est une illusion?
C'est absurde.
L'Inde vient d'acheter des Rafales. Il va exporter une bouteille de whisky à l'Inde. Il met un tarif de 150% sur une bouteille de whisky. Bon, les Indes sont des Indes.
C'est absurde géographiquement. L'Europe est à côté du point de vue britannique, à côté du Royaume-Uni. En fait, ils en font même partie. 50% des exportations sont dans ce continent. Ça restera le cas. Ils peuvent se développer un peu plus en Chine, un peu plus au Brésil, mais bien sûr que l'Europe restera le partenaire principal. C'était évident. Un deuxième point que je voulais dire, quand même, les sondages aujourd'hui donnent une majorité de Britanniques qui veulent rester dans l'Union européenne malgré l'intégralité des partis politiques, de fait, qui disent du mal de l'Europe en permanence et qui répètent en permanence que vraiment l'Europe est à l'origine de tous les maux. Donc si même aujourd'hui les sondages sont encore un peu positifs, il y a quand même une bonne chance qu'à l'arrivée, on parle de tout ça, les Britanniques choisissent de rester.
Alors décidément, le mot-clé de cette émission, c'est schizophrénie quand même. Alors, on va laisser le mot de la fin à Denis McShane. Cet homme politique en voie de disparition, car il est un des rares europhiles qui ose s'affirmer pro-européen, le Brexit, il est évitable ou pas?
Je crois qu'il y a grande chance que le Brexit va arriver si on passe à un plébiscite populiste. Oui, j'ai des grandes craintes dessus. Je suis pas certain. Ça dépend des hommes politiques, de la presse. Il y a beaucoup plus des politiciens anglais qui sont pro-européens, mais peut-être ne veulent l'affirmer trop à cause d'être toujours critiqués et attaqués par le Twitter, par les fachos, par les europhobe de la presse tabloïde. Et ce serait un grand débat. Moi, je crois, même si on vote pour en sortir, ça serait le début d'un grand cri. Je suis avec Charles Grant, disons que c'est bon pour l'Angleterre de sortir, ou bon pour l'Europe, c'est l'absurdité. C'est perdant. On a une crise en Europe, on n'a pas de croissance, on n'a pas de justice sociale, on ne sait pas gérer l'Ukraine, gérer le monde islamiste qui sont là en train de nous tuer avec Daesh, ISIL en Syrie. On ne sait pas gérer le flux migratoire. On ne sait pas donner des jobs avec un vrai avenir à nos jeunes. C'est ça l'Europe. C'est pas un problème britannique. On a une crise européenne et nous, en Angleterre, on a peut-être le plus mauvais ou le plus important des symptômes d'une crise généralisée. Donc, au début, messieurs les Européens, on a du travail sur le plancher, mais cessez de critiquer les Anglais et surtout trouvez-nous un propriétaire allemand ou français, achetez un de nos journaux pour avoir une presse au moins 5 ans sur l'Europe.
Brexit ou pas, premier élément, jeudi 7 mai au soir, et plus probablement vendredi 8 au matin. Merci à tous d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Réalisation Guillaume Munier. Merci à l'Institut français de nous avoir accueillis et plus particulièrement à Philippe Boudou. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr et sur les applications gratuites et mobile de RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux que vous évoquiez à l'instant de ma chaîne Facebook et Twitter pour rester en contact. Daniel Esquel, où que vous soyez, à Londres, à Bruxelles ou à Paris, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.